Vous ne le voyez pas, mais il y a de l'eau dans la bouteille. Hein. J'ai enlevé l'étiquette pour que vous ne sachiez pas quelle marque c'est. L'inconvénient quand on enlève l'étiquette, c'est qu'on n'a pas les indications techniques et scientifiques qui nous disent d'où vient cette eau, comment elle est composée, etc. Mais vous savez tous que l'eau, de manière générale, c'est un liquide d'abord. Hein. J'ai mis le bouchon parce que sinon ça coulerait. C'est un liquide qui, à l'état pur, n'a ni odeur ni saveur. C'est un liquide qui est composé de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, ça vous le savez sans doute. H2O, c'est sans doute la formule chimique qu'on connaît, peut-être la seule qu'on connaît d'ailleurs, en tout cas celle qu'on connaît le mieux. H2O, c'est l'eau. Vous savez peut-être aussi que 1 cm cube d'eau, à 4 degrés, ça pèse 1 gramme. J'espère que vous savez ça parce que c'est essentiel pour vivre. Vous savez aussi sans doute que l'eau est un élément indispensable à la vie, que notre terre est composée essentiellement d'eau. Et vous savez qu'on trouve donc l'eau à l'état liquide, comme ici, mais que si la température monte encore dans ce temple, ça va se transformer en gaz, en vapeur. Ou que s'il se met à geler, ça se transforme en solide, en glace. Voilà, tout ce que je vous dis là, c'est absolument objectif. On peut pas vraiment discuter de ce que je viens de dire. Sauf si j'ai dit quelque chose de faux, mais dans ce cas-là, on peut montrer que c'est faux. C'est vrai ou c'est faux, parce que c'est une démonstration scientifique, ou c'est une explication scientifique, on pourrait dire. C'est de l'ordre du savoir, tout ce que je viens de vous dire sur l'eau. Voici de l'eau. L'eau, vous le savez sans doute, c'est un élément auxquels les êtres humains, à travers les cultures, les âges, les pays, ont toujours donné une signification, ont toujours trouvé qu'il y avait du symbole autour de l'eau. Et que dans la plupart des cultures, on parle des quatre éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. L'eau qui est symbole parfois de mort, parce que on peut se noyer dans de l'eau, on peut être victime d'une tempête, d'un cyclone. Il peut y avoir une traversée de la mer tellement dangereuse, et puis l'eau est symbole de vie aussi, puisque on en a besoin pour boire, pour se laver, pour arroser les plantes. On ne peut pas vivre sans l'eau. L'eau qui est symbole ainsi de quelque chose de vivant, qui rassemble les hommes. L'eau qu'on pourrait dire l'eau vive, comme dit Jésus dans le texte de l'évangile de Jean, que nous avons lu en premier, qui propose de boire de l'eau vive. L'eau que l'on utilise pour le baptême, l'eau qui nous dit quelque chose de la présence de Dieu. On pourrait dire, voilà, l'eau c'est un symbole. Et le mot symbole, vous le savez sans doute, hein, ça veut dire ce qui rassemble. Étymologiquement, le symbole, c'est ce qui rassemble. L'eau, symboliquement, est quelque chose qui, quand on partage la même culture, nous renvoie à des significations que nous pouvons partager. Voici de l'eau. Ah, ça fait un bien fou. Comme il fait chaud et tout ça, ça fait, c'est une sensation extraordinaire. Vous la connaissez cette sensation, quand on a soif et qu'on a chaud et qu'on boit un verre d'eau, c'est inexprimable, ça dépasse tout ce qu'on peut savoir sur l'eau, ça dépasse tous les symboles, c'est encore plus profond, ça fait du bien quoi. J'en bois encore une gorgée tellement ça fait du bien. Voilà, l'eau, c'est une sensation aussi de boire de l'eau. Voilà, l'eau, on peut en parler comme un savoir scientifiquement, on peut en parler comme un symbole, comme une culture, une doctrine, on peut en parler comme un élément qui nous donne des sensations, des sentiments et qui nous fait vivre. Mais je ne suis pas là pour vous faire un cours de sciences naturelles, mais pour se poser la question ensemble, est-ce que la foi, quand on parle de la foi, est-ce que c'est de l'ordre du savoir? Est-ce que c'est de l'ordre de la doctrine? Ou est-ce que c'est de l'ordre du sentiment? Est-ce que la foi, c'est de l'ordre du savoir? Ben, je dirais en partie oui. Parce que notre foi n'est pas une foi qui est hors sol, qui serait simplement du rêve ou de l'illusion, mais c'est quelque chose qui est incarné, et incarné en particulier dans l'histoire. La Bible nous raconte la vie d'hommes et de femmes qui ont vécu dans un pays ou une région que l'on connaît, le Proche-Orient, une région qui a traversé des moments de paix, mais des moments de grandes querelles, et nous savons que cette région est encore meurtrie par des tas de conflits. Les villes les villages dans lesquels ces hommes et ces femmes vivent, eh ben, ils existent. On en a des traces archéologiques. Et la plupart des hommes et des femmes de la Bible, nous savons qu'ils ont existé. Qu'ils soient des personnages bibliques au sens propre du terme, on pourrait dire David, par exemple, le grand roi David, ou Jésus, ou Paul, ou que ce soit des personnages que cite la Bible, mais qui sont du monde environnant, Cyrus, l'Assyrien, Auguste, l'empereur romain, Pilate, le gouverneur en Judée, parmi eux Jésus. Jésus dont nous savons, tous les historiens le savent et le disent, qu'il a vraiment existé, il y a vraiment eu un homme, au début du 1er siècle de notre ère, dans cette petite contrée de Judée et de Galilée, qui a vécu, qui a cheminé, qui a dit des paroles, qui a eu quelques personnes qui l'ont suivi, qui a été arrêté par les Romains, et qui a été exécuté sur la croix, ce supplice dont nous savons que les Romains étaient tellement friands. Tout ça, on le sait. C'est de l'ordre du savoir. Et c'est très important que notre foi repose sur ce savoir. Elle n'est donc pas juste une théorie tombée du ciel. Elle est dans la vie des êtres humains. Et on peut en savoir des choses au plan de notre histoire. Mais voilà, la foi, c'est aussi de l'ordre de la doctrine. C'est-à-dire pas simplement de faits de l'histoire, mais plus profondément de l'interprétation que l'on peut donner aux faits de cette histoire. C'est-à-dire du sens que l'on donne à la vie de ces hommes et de ces femmes dans cette région, au fil des générations, au sens que l'on donne à la vie de cet homme, Jésus, ce personnage historique qui a existé au début de notre ère. C'est ce que fait Pierre dans l'extrait des Actes que nous avons lu. Quand il parle à Pentecôte, il parle à la foule et il leur dit « Voilà ce Jésus dont vous savez qu'il a été crucifié, donc c'est de l'ordre du savoir, eh bien je vous dis qu'il est devenu Messie. Je vous dis qu'il est devenu Dieu. Je vous dis qu'il est ressuscité. » On n'est pas là dans l'ordre du savoir. On est dans l'ordre de mots qui disent une réalité qui transcende le savoir. Quelque chose qui nous projette au-delà du savoir, plus en profondeur aussi, qui donne sens à la vie de cet homme, Jésus, dont la mort n'est pas la fin, mais qui en ressuscitant, bien que ce soit au niveau du savoir très difficile à comprendre, c'est illogique et c'est indémontrable en fait, c'est au niveau de la doctrine quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire des mots qui sont posés ensemble pour dire cette espérance, cette foi, cet amour, et qui rassemble des chrétiens depuis 2000 ans sur la terre entière, dans différentes dénominations chrétiennes, se retrouvant autour du symbole que ça représente, du signe que ça donne, du sens que ça offre, le Christ ressuscité, qui nous dit que Dieu est Père, qui nous dit que lui, le Fils, vient sur nos chemins, qui nous dit que sa présence dans l'Esprit de Dieu est là pour irriguer nos vies. Tout ça, c'est de l'ordre de phrases que nous pouvons confesser ensemble. La foi, c'est pas simplement du savoir, même si ça se base dessus. C'est passer du savoir à la doctrine, c'est-à-dire à des phrases communes que nous pouvons partager en Église. Et puis la foi, c'est aussi de l'ordre du sentiment. C'est aussi quelque chose que l'on a à prendre en soi, comme de l'eau que l'on boit et qui vient nous faire vivre. C'est ce que dit l'apôtre Pierre dans le livre des Actes, pareil, quand il parle de ce Jésus dont vous savez qu'il a été crucifié, dont je vous dis qu'il est ressuscité. Alors on nous dit la foule est bouleversée. C'est-à-dire qu'ils l'entendent au plus profond d'eux-mêmes. Ils le reçoivent en eux-mêmes. Ils en sont bouleversés positivement et ils disent « qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et Pierre leur dit « ben faites-vous baptiser et puis soyez dans le pardon de Dieu et partagez cela, c'est-à-dire comme si vous buviez un peu d'eau, prenez-le en vous-même, buvez-le, vivez-en, partagez-le. » C'est important de passer du savoir à croire, et de croire à vivre. Alors, est-ce que la foi, elle est plus dans l'un ou dans l'autre? Ça peut dépendre des moments de la vie, ça peut dépendre des personnes, mais l'essentiel, c'est que elle est dans les trois à la fois. C'est très important de se dire que notre foi repose sur du savoir. C'est d'autant plus important que nous sommes dans un monde qui tend parfois à être dans de l'émotion complètement désincarnée. Et c'est important de se dire, voilà, ce que nous croyons, il y a du solide derrière, il y a de la base, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est très important aussi de se dire que la foi, ce n'est pas que mon sentiment personnel, c'est aussi ce qui nous rassemble en Église, ce que l'on peut partager, que d'autres peuvent aussi dire, et que l'on peut ensemble essayer de comprendre, de s'expliquer, de trouver du sens, de se dire, qu'est-ce que tu dis quand tu dis cela? Qu'est-ce qu'on peut en dire ensemble? C'est très important dans notre monde qui parfois nous enferme dans des identités, de se dire, voilà, c'est ce message d'ouverture et de partage qui nous fait vivre et que nous pouvons en Église partager les uns avec les autres. Et puis c'est tellement important de pouvoir le vivre soi-même. Parfois le ressentir, comme quand on boit un verre d'eau après avoir marché pendant très longtemps. Parfois être un peu saturé, parce qu'on en a trop bu, alors on a besoin de faire une pause. Et puis chacun boit à sa manière, la quantité dont il a besoin. Et puis parfois c'est banal, on n'y pense pas. Et puis parfois c'est merveilleux. Voilà, la foi, c'est aussi vivre dans cette émotion. Si on isole un des trois éléments, si on n'est que dans le savoir, alors on a une foi qui est complètement intellectuelle, qui est complètement culturelle, on pourrait dire, qui est du musée presque, hein. Voilà ce que nous dit la Bible, c'est hyper intéressant. Si on s'arrête là, ce n'est pas suffisant pour vivre. Si on n'est que dans la doctrine, alors très vite, on peut devenir enfermé dans des vérités qui font que nous, on pense ça, et puis les autres pensent différemment, et on peut perdre la saveur qu'il y a derrière. Si on n'est que dans le fait d'éprouver du sentiment, alors on est fragile aussi, parce que l'émotion, on sait que parfois on l'a positivement, parfois on l'a négativement, que parfois on ressent, parfois on ne ressent pas, c'est fragile. On a besoin des trois pour vivre une foi équilibrée. Alors ce que je voudrais vous dire, tout simplement pour terminer, c'est presque une invitation, un encouragement à continuer à vous nourrir ainsi de tout ce qui est la culture biblique, c'est-à-dire là où se pose notre savoir, de continuer à nous nourrir de la vie d'Église, c'est-à-dire de là où nous partageons ce qui nous rassemble, et de continuer à vous nourrir de la prière, c'est-à-dire de cette relation intime et personnelle avec le Seigneur. Nous avons besoin des trois. C'est ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean, quand il dit que celui qui a soif vienne à moi, qu'il boive, et alors de lui couleront des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire, une fois traversé par cette foi, vous serez pour d'autres des gens qui invitent à savoir, à croire et à vivre. Alors, puissions-nous ensemble avoir encore de grandes heures de bonheur dans la culture biblique, le partage en Église et la vie ensemble. Et alors, on pourra encore trinquer longtemps à l'Évangile de Jésus-Christ. Amen.